Quand vous entendez le mot extrémisme, ça suscite en vous une réaction, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Même si je n'ai pas encore défini le mot, vous avez déjà imaginé toutes sortes d'horreurs. On pense tout de suite aux islamistes, par exemple, aux actes de violence contre quiconque s'oppose à une certaine idéologie radicale ou soi-disant radicale. Bien sûr que beaucoup de nos amis musulmans n'entrent pas dans cette catégorie dite extrémiste, mais on pense quand même à ces exemples d'islam extrémiste qui circulent ces jours-ci dans les médias, n'est-ce pas? La fusillade meurtrière au Canada il y a 2 semaines, qui a été faite au nom d'islam, l'attaque aussi à la hachette contre les policiers à New York, encore une fois faite au nom de l'islam il y a quelques semaines, les innombrables attentats, les décapitations qui ont lieu tous les jours dans le monde. Nous pensons aussi à l'attentat du 11 septembre à New York qui a causé des milliers de morts. L'attentat dans le métro de Londres, on pense à Madrid aussi. Et donc nous avons de bonnes raisons, je pense, d'avoir peur de l'extrémisme religieux. Mais on parle aussi de l'extrémisme en politique aussi, n'est-ce pas? Peut-être qu'on est contre l'extrême gauche, contre ces idées qu'on se représente comme étant radicales et dangereuses, ou peut-être qu'on pense que si l'extrême droite gagne plus de pouvoir, ça sera la fin de la France. Et pour en rajouter une couche, on applique au Front National, par exemple, les mots fascistes et racistes et radicales et extrêmes, même si ça ne caractérise pas forcément leur politique. Et dans tous les cas, même si c'est bien loin parfois de la vérité, si on attache l'étiquette extrême à quelque chose, ça fait peur aux gens. Personne ne veut être étiqueté extrême. De ce fait, qu'il s'agisse d'une religion, d'une idéologie, d'une position politique, l'extrémisme comporte des connotations péjoratives. Et donc la question, la réflexion que je veux soulever aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que c'est que l'extrémisme? Qu'est-ce que c'est que l'extrémisme? Et de ça, on va poser une autre question aussi. Est-ce que l'extrémisme, c'est toujours mal? Donc, qu'est-ce que c'est que l'extrémisme? Et est-ce que l'extrémisme, c'est toujours mal? Le mot extrême peut caractériser autre chose que la politique ou la religion. Pour moi, quand je pense à l'extrémisme, je pense à une glace au chocolat. Et je m'explique. Récemment, j'étais confronté à un choix important devant le rayon des surgelés à Carrefour. Vais-je prendre la glace au chocolat ou la glace extrême chocolat? J'avais vraiment ce choix devant moi. J'aime trop le chocolat, donc naturellement, j'ai pris la glace extrême chocolat. Et ce jour-là, l'extrémisme s'est révélé être très délicieux. C'était une bonne chose. Donc ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que peut-être que l'extrémisme n'est pas toujours une chose négative. On parle de l'extrémisme dans le sport aussi, n'est-ce pas? Le parachutisme, le base jumping, le snowboard extrême, ce genre de choses. Voilà des sports que certains d'entre nous admirons. Je remarque cet adjectif extrême partout sur des produits du supermarché, sur les produits des magasins de sport, partout quoi. C'est partout. Et donc, nous revenons à cette question, qu'est-ce que l'extrémisme? C'est peut-être un peu plus compliqué qu'une horde de terroristes assoiffés de sang, n'est-ce pas? Alors, les dictionnaires que j'ai consultés n'ajoutent pas grand-chose à ce que nous présupposons déjà. Ce qui est extrême, selon certains dictionnaires, est caractérisé par ce qui est à la fin, ce qui est au bout. L'extrême, ça désigne la dernière limite, la limite ultime. C'est quelque chose de radical. J'ai cherché rapidement sur l'internet aussi, j'ai trouvé ceci sur l'extrémisme, et je cite. Une personne adoptant un point de vue extrémiste est persuadée de détenir la vérité. Ça disait aussi que l'extrémisme était caractérisé par le dogmatisme. Mais à mon avis, ce genre de définition nous mène dans une impasse aussi. Cela veut dire qu'un scientifique qui insiste sur le fait que la Terre tourne autour du soleil et pas l'inverse est un dogmatique extrême, n'est-ce pas? Une étiquette, assez péjorative. Une institutrice qui insiste fermement et catégoriquement auprès de ses élèves qu'il y a 100 centimètres dans un mètre est elle aussi une dogmatique extrême, selon cette définition. Un pasteur ou un prêtre qui enseigne que la foi en Jésus est le seul moyen d'être sauvé de la mort et du péché est un dogmatique et même un extrémiste. Un athée qui ne croit qu'au matérialisme est un extrémiste. Un homme politique qui, contre vent et marée, ne renonce pas à soutenir son projet de loi est un extrémiste. Vous voyez, pratiquement, ça veut dire que notre pays est dirigé par une bande d'extrémistes. On est entouré par des extrémistes. C'est ça la vie. Dans un sens, nous sommes tous des dogmatiques. Nous sommes tous des extrémistes sur certaines propositions ou certaines idées. Si l'extrémisme est défini par le dogmatisme, par la force de l'engagement vis-à-vis d'une idée. Même les gens qui dénoncent l'extrémisme, s'ils le font fermement, sont par définition des extrémistes parce qu'ils tiennent leur position jusqu'au bout, vous voyez? Ils sont extrêmement contre l'extrémisme. Ils s'opposent à l'extrémisme à l'extrême. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Alors je pense toujours que le mot extrémisme ou extrémiste peut être utile pour décrire le bout ou les limites d'une croyance ou d'une idéologie. Mais si nous sommes tous des extrémistes, si nous sommes toujours entourés par l'extrémisme d'une façon ou d'une autre, il y a une question plus importante que nous devons aborder. L'extrémisme, est-ce que c'est toujours mal? Est-ce que c'est toujours mal? Sans répéter les exemples que j'ai cités tout à l'heure, nous pouvons penser à beaucoup d'autres exemples positifs d'extrémisme. Un scientifique qui s'engage au fond, jusqu'au bout, qui insiste dogmatiquement pour que son équipe recherche la bonne solution à un problème, il est un extrémiste, n'est-ce pas? Est-ce que ça c'est bien ou pas? Je dirais globalement que oui, c'est bien. Un médecin qui est extrémiste dans son engagement en faveur du bien de ses patients, encore une fois, je dirais que c'est un bon extrémisme. On peut imaginer un mari qui aime son épouse à l'extrême. Ça ressemble à quoi? Ce serait peut-être caractérisé par un engagement indestructible, par la fidélité, par la patience, par la douceur. En fait, j'ai tendance à dire que dans tous les cas où on voit des gens qui s'engagent jusqu'au bout pour le bien de leur prochain ou de la société, c'est des bons extrémistes, c'est un bon extrémisme. Et ça peut toucher non seulement les comportements moraux, mais aussi les idéologies ou la religion. En fait, ce sont les idéologies politiques et philosophiques, ainsi que les religions, qui font le plus peur aux gens par rapport à l'extrémisme, je crois. Et donc, bien qu'on puisse parler de chocolat extrême ou de ski extrême, ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus en tant que chrétiens, c'est l'extrémisme au niveau de l'idéologie, notamment au niveau de l'idéologie religieuse. Je vous propose donc quelques principes pour évaluer l'extrémisme autour de nous. La raison pour laquelle on a besoin d'évaluer l'extrémisme auquel on est confronté dans la politique, dans la philosophie, dans la religion, c'est que l'extrémisme est déjà là. C'est déjà là. Qui sera toujours là. Mais on fait face à quel genre d'extrémisme? C'est vraiment ça la question. On fait face à quel genre d'extrémisme? Ma liste, ce que j'ai mentionné déjà, ma liste n'est pas exhaustive, je crois. Il y a pas mal de chevauchements entre les différents points, mais on peut au moins voir ces quatre choses. Quelle est la source ou l'origine d'une idéologie, de telle ou telle idéologie? Quel est le cœur ou le contenu de cette idéologie? Quel est son motif, c'est-à-dire ce qui la motive ou qui la nourrit? Et quel est son but? Quel est le résultat de cette idéologie? L'évaluation du caractère extrême d'une idéologie commence par l'identification de la source de cette idéologie. Autrement dit, où commence cette idéologie, cette philosophie, cette religion? Quels sont les documents qui sont ses sources? Qui sont les promoteurs, les partisans, les défenseurs de cette idéologie? Tout simplement, ça vient d'où? Ça vient d'où? Nous savons que le christianisme historique et toutes les églises aujourd'hui qui croient à la Bible sont souvent critiquées comme étant extrémistes pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce qu'enseigne le christianisme. On cite par exemple l'extrémisme des croisades, mais sans poser la question de savoir si cet extrémisme découle de l'enseignement de la Bible et des confessions de foi, ou si cet extrémisme découle plutôt d'une idéologie politique et pseudo-chrétienne qui elle-même est le fruit de l'union de l'Église et de l'État pendant le Moyen Âge. On ne se pose même pas la question de savoir si ce genre d'activité était vraiment extrémiste pour cette époque-là. Donc il y a beaucoup de questions à poser par rapport à ce genre de choses. Et donc il est toujours important, dans un premier temps, d'identifier ce qui est vraiment à l'origine de ce qu'on qualifie d'extrémiste. Mais on ne s'arrête pas là. On peut ensuite évaluer l'extrémisme à partir du cœur ou de l'objet, du contenu de l'idéologie en question. C'est la deuxième chose. Autrement dit, c'est quoi cette idéologie, tout simplement? Quels sont les principes qui sont au cœur de cette idéologie ou de cette religion? Ça enseigne quoi? En une phrase, en un paragraphe, ça enseigne quoi? Quel est le contenu le plus important de cette philosophie? Est-ce qu'il y a un extrémisme néfaste et destructeur à son cœur? Ou quelque chose d'autre? Quelque chose de bien, peut-être? Donc si on examine le message central de telle ou telle idéologie, et si ensuite on essaie d'imaginer comment ce serait si on vivait jusqu'au bout de ce message, est-ce qu'il y a là quelque chose de positif ou de négatif? C'est ça la question. En fait, pour illustrer ce principe, on va évaluer trois ou quatre grandes philosophies dans quelques instants. Mais avant de faire ça, et troisièmement, on peut considérer aussi ce qui motive l'extrémisme. Qu'est-ce qui nourrit cette idéologie? Quel est son motif? Est-ce qu'il y a une récompense qui est promise dans cette idéologie, qui entraîne un comportement extrémiste? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on essaie de justifier à travers cet extrémisme particulier? Et quatrièmement et finalement, quel est le but de telle ou telle idéologie? Qu'est-ce qui se passe quand on applique cette idéologie de manière cohérente? Est-ce que ça entraîne la violence ou des comportements brutaux et injustes? Est-ce que ça entraîne des actes anodins, peut-être? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se disent chrétiens ou musulmans ou athées ou simplement spirituels ou non-croyants ou bouddhistes ou agnostiques et qui le sont plus ou moins. Mais en réalité, quand on vit vraiment d'une manière qui soit cohérente avec ce qu'on prétend être, quel est le résultat? C'est ça la question. On peut mettre ensemble tous ces gens et toutes ces religions mentionnées sans vraiment remarquer de vraies différences entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe quand un bouddhiste vit vraiment comme un bouddhiste? Qu'est-ce qui se passe quand un féministe prend au sérieux les principes du féminisme? Qu'est-ce qui se passe avec l'extrémisme dans le marxisme, par exemple? Produit-il un bon résultat? Et l'extrémisme écologiste, islamique, chrétien, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe quand un humaniste pratique sincèrement l'humanisme? Si l'extrémisme se définit par l'application d'une idéologie jusqu'au bout, qu'est-ce que ça implique pour les idéologies les plus connues ou les plus répandues du monde, de notre société? Je vais examiner très brièvement quelques idéologies assez répandues afin de montrer tout simplement comment fonctionne l'évaluation de l'extrémisme dans ces situations. juste pour susciter la réflexion. Prenez le bouddhisme, par exemple, on va commencer là. C'est une religion qui est développée dans un contexte hindou, en Asie, qui professe le panthéisme non-dualiste, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a une substance dans l'univers. Donc toutes les choses sont liées. Le bouddhisme enseigne que nous sommes tous liés spirituellement, que les réalités physiques sont une illusion, que le but de la vie, c'est d'échapper à la vie et d'être réabsorbé dans cette force qui est la réalité ultime. Pour le bouddhiste, le salut vient du fait de se rendre compte que le soi est en fait le non-soi. C'est ça le salut pour le bouddhisme, pour le bouddhiste. Il faut donc suivre un chemin Il y a normalement 8 choses qu'il faut faire. Je vais mentionner quelques-uns. La connaissance, la méditation, des bonnes actions, etc. Ce genre de choses. Afin d'échapper à cette vie à laquelle vous êtes lié par la réincarnation perpétuelle. Le bouddhiste est motivé par la possibilité qu'il a d'échapper au monde physique. Donc, à quoi ressemble l'extrémisme pour un bouddhiste? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand on prend le bouddhisme au sérieux? Quand on va jusqu'au bout, quand on pratique le bouddhisme d'une manière dogmatique. La meilleure chose à faire pour répondre à cette question, c'est vraiment d'observer un bouddhiste pleinement engagé dans sa croyance. Parce qu'on n'est pas spécialiste dans le bouddhisme, mais sur la base des principes fondamentaux du bouddhisme, on peut supposer qu'un bouddhiste extrémiste va passer beaucoup de temps dans la méditation, n'est-ce pas? Il fait très attention de ne pas affecter négativement le karma des autres. Il est peut-être ascétique comme il vit. Il ne s'engage ni pour ni contre la société autour de lui. Donc, ça c'est peut-être un bouddhisme extrémiste, radical, dogmatique. On peut imaginer qu'un extrémiste bouddhiste imiterait le fondateur du bouddhisme, un homme qui s'appelait Gautama. Et Gautama restait assis sous un arbre pour méditer en attendant de mourir ou d'atteindre l'illumination. C'est ça l'origine du bouddhisme. Et donc un bouddhiste extrémiste, ce n'est pas un terroriste violent, en théorie. Je pense pas. Mais est-ce que le bouddhisme extrémiste, est-ce que ça contribue au bien de la société? C'est ça la question. Ça, c'est pas sûr. Prenez un autre exemple. Prenez un féministe extrémiste. Et j'ai dit un féministe, parce que féministe, c'est masculin. Désolé aux féministes, mais prenez un féministe extrémiste, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un de pleinement engagé en faveur des principes féministes. Quelqu'un qui défend dogmatiquement le féminisme. Et donc un vrai féministe. D'accord? Comme n'importe quelle autre idéologie, le féminisme est très divers dans son histoire, dans son application. Donc il faut faire attention avec ça. Mais je pense, ce que je pense maintenant en particulier, c'est le féminisme du XXe siècle qui s'est développé dans la littérature, dans la philosophie continentale. Donc je pense à certains philosophes comme Derrida et d'autres comme ça. Mais je sais bien que le féminisme, c'est beaucoup plus large que ça. Mais ce genre de féminisme rejette la réflexion linéaire de la logique, d'accord, en faveur d'un raisonnement circulaire qui correspond à la forme de l'organe reproductif féminin, d'accord. Et donc cette idéologie s'oppose à toutes les institutions soi-disant masculines ou patriarcales. Cette idéologie exige l'égalité entre les sexes. Mais plus que ça, le féminisme recherche la neutralisation de la masculinité, dans certains cas, de tous les stéréotypes de sexe. Et donc l'extrémisme dans le féminisme, dans ce genre de féminisme-là, ça incite naturellement des campagnes militantes contre les religions théistes, contre toute trace de leadership masculin et contre les valeurs sexuelles traditionnelles ou soi-disant traditionnelles. Ça implique une sexualité libertaire, un engagement agressif dans la politique. On a pu voir des exemples récemment à Paris, je pense à l'année dernière, quand le groupe féministe les Femmes a attaqué la cathédrale Notre-Dame. Il y a d'autres exemples de ce genre de comportement. Je sais bien que ça ne représente pas toutes les branches du féminisme, mais je cite ce genre d'exemple afin de vous montrer ce que le féminisme devient quand il est appliqué à l'extrême, catégoriquement, jusqu'au bout. Et donc il faut se demander si ce genre d'idéologie est globalement bénéfique à la société et à l'individu. Prenons un dernier exemple, l'islam. L'islam est souvent mentionné aux infos en raison des actes violents qui sont perpétrés contre ceux qui sont perçus par certains comme étant les ennemis de l'islam. Il y a bien sûr des musulmans complètement opposés à la violence et à l'extrémisme, ça c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui pratiquent le djihad d'une manière brutale et féroce. Donc si l'extrémisme, ça signifie l'application dogmatique d'une idéologie, si ça oblige ceux qui souscrivent à cette idéologie à se soumettre jusqu'au bout à ses principes, à ses pratiques, qu'est-ce que ça veut dire pour les musulmans? C'est un peu compliqué. Comme le christianisme et le judaïsme, l'islam est monothéiste. Il est développé au Moyen-Orient, au 7e siècle après Jésus-Christ, sous l'impulsion de Mohammed ou Mahomet, je crois que c'est l'autre nom de ouais, j'oublie maintenant comment on prononçait, mais c'est pas grave. Qui s'est en fait, Mahomet, je ne peux pas le dire maintenant, pardon, Mohammed, voilà, Mohammed, qui s'est présenté comme étant le dernier prophète de Dieu, d'accord? Le mot islam veut dire soumission, et le mot musulman veut dire celui qui se soumet, d'accord? Pour les musulmans, le salut est obtenu par l'obéissance à Allah ou Dieu, ce qui implique la confession d'Allah. En fait, c'est les cinq piliers de l'islam, la confession d'Allah, la prière, le jeûne, l'aumône et un autre mot un peu difficile pour moi, désolé, le pèlerinage, d'accord? Donc pour les musulmans, le monde aujourd'hui est caractérisé par une lutte entre les territoires soumis à Allah et les territoires qui ne sont pas soumis à Allah. D'accord? Le Coran, qui est le livre saint de l'islam, interdit la conversion de force à l'islam. Je pense en particulier au deuxième chapitre, verset 256. Le Coran parle aussi du djihad, d'accord, ou la guerre sainte, mais comme étant une lutte spirituelle intérieure, dans le 61 chapitre verset 11, ça parle de la guerre défensive et pas offensive. Et donc, à mon avis, c'est pas juste de porter des fausses accusations contre les musulmans, qui sont en réalité pour beaucoup parfaitement paisibles, d'accord? Mais pour comprendre l'extrémisme dans l'islam, il faut considérer encore l'origine de l'islam, ainsi que son contenu, ses résultats, ses buts. D'accord? Il y a plusieurs textes coraniques qui proposent et qui justifient la violence contre les païens, contre les polythéistes, contre les chrétiens et contre les juifs. Il y a plus de 100 versets coraniques qui incitent à la violence, qui parle aussi de la décapitation, la mutilation des non-croyants. Et contrairement à l'Ancien Testament, qui mentionne des exemples de violence limitées à une période historique spécifique, la violence dans le Coran s'applique à toutes les époques. Ce n'est pas fini. Mohammed, le fondateur de l'islam, diffusait sa religion à travers des campagnes militaires. C'est une fête historique. Et donc l'islam extrémiste aujourd'hui pourrait ressembler à l'islam historique. Les extrémistes violents peuvent ainsi se justifier dans leur comportement. Et donc l'islam extrémiste peut être un islam paisible entre les musulmans, bien sûr, Ça peut promouvoir une bonne morale aussi. Mais la violence horrible que l'on peut constater parfois aujourd'hui pourrait aussi être justifiée par ce type d'islam dogmatique. Ça pourrait, d'après certains, être cohérent avec les doctrines centrales de l'islam. Alors on peut faire ce même type d'évaluation pour le marxiste, pour l'écologisme, pour l'humanisme, pour d'autres idéologies. Mais parce que je parle à des chrétiens aujourd'hui, je vous propose maintenant une définition de l'extrémisme chrétien. Qu'est-ce que c'est l'extrémisme chrétien? Autrement dit, je voudrais comprendre ce qui se passe quand un chrétien suit Jésus jusqu'au bout. L'extrémisme chrétien. Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien prend la Bible au sérieux? Quand il est dogmatique dans son engagement envers la doctrine essentielle de la foi chrétienne. Pour les chrétiens, nous croyons, c'est la base de notre foi, nous croyons en Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons que nous sommes pécheurs et rebelles. Nous croyons que Dieu le Fils s'est manifesté sur la terre afin de nous guider spirituellement, mais plus encore pour mourir à notre place sur la croix. Nous croyons que nous sommes sauvés, non par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Nous croyons que Jésus est le Seigneur de ce monde. Nous avons la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle à tous, de transmettre cette grâce au monde. C'est ça les idées centrales de la Bible. Quand on pense à l'extrémisme chrétien, il faut songer d'abord au caractère exclusif de la foi en Christ. Ça veut dire qu'on est dogmatiquement engagé à défendre la grâce de Dieu et la foi en Jésus comme étant le seul moyen du salut. Je pense à Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Je pense à Jean chapitre 14, verset 6. L'extrémisme chrétien se manifeste par un engagement total, jusqu'au bout, à aimer Dieu et à aimer son prochain. C'est ça, en fait, le plus grand commandement selon Jésus, n'est-ce pas? Matthieu 22, versets 37 et 38. L'extrémisme chrétien se manifeste par un engagement fort envers l'Église, envers l'étude de la Bible, envers le témoignage, envers la morale, envers le bien de la société. Ce qui fait peur aux gens, je pense, par rapport à l'extrémisme chrétien, c'est notre engagement envers Dieu, notre engagement à aimer les gens, ce qui peut vouloir dire qu'on met Dieu au-dessus des priorités de la société. Mais Jésus a dit que les vrais croyants vont renoncer à eux-mêmes, se charger de leur croix et les suivre. Je pense à Matthieu 16, verset 24. Donc soit on est pleinement attaché à Jésus, soit on n'a que des pseudo-chrétiens culturels. C'est-à-dire pas du tout des chrétiens, c'est-à-dire des païens, en fin de compte. Mais si vous êtes vraiment chrétien, je vous annonce, c'est un peu provocateur, on verra après les réactions, mais je vous annonce que vous êtes en fait extrémiste. Et je vous invite à le rester en fait. C'est choquant peut-être, et même, comme j'ai dit, un peu provocateur. Mais je finis par cette question. Quelle est l'alternative de l'extrémisme? Quelle est l'alternative à l'extrémisme, pas juste pour les chrétiens, mais pour tout le monde? L'alternative, c'est la complaisance morale, politique, théologique, philosophique, scientifique, etc. C'est le cynicisme, c'est le scepticisme, c'est le tiédeur, le refus de se positionner. L'extrémisme, le dogmatisme, les engagements forts existent dans le monde, c'est sûr. Ça existe de toute façon. La question, c'est quel extrémisme suivez-vous? Avec Christ, je vous propose donc un extrémisme qui est vraiment extrême, mais extrême dans le bon sens. Voilà.